Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du vendredi, journée de mobilisation pour la réforme des retraites, aujourd'hui partout en France. En parallèle, moins audible, un autre mouvement se poursuit, engagé depuis 10 mois, celui pour l'hôpital public. À partir de 12h55, rendez-vous avec le neurochirurgien et professeur, auteur de l'hôpital, une nouvelle industrie qui va nous aider à penser les remèdes et pour cela à comprendre le malaise. Il s'appelle Stéphane Velute et il sera notre invité donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, son dernier album avait un son très libre, a-t-il dit. Pour celui-ci, je ne veux entendre que des angles droits et des lignes parallèles. Et ce nouvel album s'appelle Concrete and Glass. Il sort dans les bacs sous le label Because. Nicolas Godin, ex du groupe R, est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il a d'abord fondé un groupe avec ses copains de lycée avant de se ranger pour étudier cette famille, l'architecture à Versailles puis à la Villette. Il a ensuite repris ses crayons et ses synthés pour former avec son complice Jean-Benoît Dunkel le groupe R, inventer un nouveau son et grandir ensemble musicalement. 7 albums studio plus tard, des BO de films comme ceux de Sofia Coppola et quelques collaborations importantes, la séparation et un premier album solo, Contrepoint. Entre parenthèses, contrepoint à l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Aujourd'hui arrive ce nouvel album, encore Concrete and Glass. On y entend un peu de Philippe Glass, déjà rien que dans le titre. Bonjour à vous, Nicolas Godin.
Bonjour.
À l'origine de ce projet, il y a pourtant la bande-son que vous avez réalisée pour un autre artiste, pas un musicien. C'était pour Xavier Veillant, qui avait notamment représenté la France à la Biennale d'art de Venise de 2017 avec son studio Venezia, studio d'enregistrement où il disait reprendre le vocabulaire de l'acoustique, cette architecture déconstruite. On l'écoute.
Ce que je voudrais créer, c'est un moment peut-être de surprise, parce que les gens qui viennent à la Biennale ne sont pas forcément habitués à se confronter à des musiciens ou à rencontrer la musique dans cet endroit. Donc ça joue sur un moment qui est assez fragile et incertain, qui est le moment de la création musicale. Et contrairement à d'habitude, parce qu'on fait ce travail de création souvent à l'abri des regards, dans un studio, parfois la nuit, ou dans une sorte de vase clos, là, au contraire, on ouvre la porte de ce studio et le public des visiteurs de la Biennale est invité à assister, non pas à participer, mais à assister à ce moment assez fragile, mais aussi assez exceptionnel dans les meilleurs moments.
Voilà, Xavier Veillant parlait d'un dispositif architecturo-musical pour ce nouvel album. On pourrait parler avec vous, Nicolas Godin, d'un dispositif musicalo-architectural, peut-être, c'est ça?
Oui, c'est vrai que Xavier aime beaucoup collaborer avec les musiciens. Et depuis le début de notre relation, on a souvent trouvé le moyen d'échanger, de faire des travaux en commun.
Ça, c'était pas votre première collaboration?
Non, avec Xavier, on avait fait un spectacle qui s'appelait Aérolite.
À Pompidou,
voilà.
De mémoire.
Et puis, il avait fait une pochette d'un de nos albums. On se croise depuis 97, je crois. On s'était rencontré à New York, il exposait avec sa galerie et nous on était là-bas pour tourner le clip de Sexy Boy. Et on s'est rencontré un soir au Gramercy Park et le courant est bien passé. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelqu'un qui aime le musicien. Donc là encore, il a fait un spectacle avec Maud, avec du patinage sur de la glace. Là, c'était très très beau. Et puis donc un jour, il est venu me trouver et me dire voilà, je vais faire cette exposition dans des maisons célèbres, dans des maisons qui sont importantes pour lui. Des maisons qu'il adore, des architectes qu'il vénère. Et il m'a demandé si j'avais une idée pour mettre en musique un peu, ou alors trouver un angle musical à ses expositions. Donc il a exposé ses œuvres, il a commencé par la maison de Richard Neutra, et ensuite John Notner, Pierre Koenig, c'est des maisons qui sont à Los Angeles. Et à chaque fois, j'ai investi les lieux avec lui d'une manière sonore, on va dire. J'ai composé la bande son, mais alors c'était des bandes son inspirées vraiment par la maison et l'architecte, en ce sens où je voulais vraiment faire des thèmes comme peut faire quelqu'un qui fait des musiques de film. Donc je voulais m'éloigner du cliché de l'art contemporain où souvent la musique est assez bruitiste. Moi, quand je vais à des expos, c'est souvent quand j'entends de la musique dans une salle, c'est souvent plus du sound design que de la composition. Ce que je peux comprendre, parce que dans les musées, si vous mettez une mélodie toute la journée en boucle pour accompagner une œuvre, les gens vont devenir fous. Parce qu'une mélodie, ça doit être furtif, ça ne peut pas s'écouter. Ou alors, peut-être à Guantanamo, je ne sais pas, pour torturer les gens, mais je...
C'était pas le but.
Non. Du coup, là, j'avais vraiment un thème pour chaque architecte, un thème pour chaque maison. Et quand les expos étaient finis, ça a duré un an et demi, j'ai voulu transformer ces thèmes en chansons.
Voilà. Alors, juste parenthèse, Veillon, il avait fait la pochette de l'album Pocket Symphony, ouais. Époque R, et ici, qui signe la pochette de l'album
C'est ma fiancée. Iracema Trevisan et elle fait la pochette de l'album précédent aussi. Je ne m'attendais pas à cette question, parce que je mélange vie privée et vie artistique. Et je suis super content de la pochette. Enfin, on a collaboré ensemble pour faire ça. Mais c'est,
Et on y voit quoi sur cette pochette?
Je suis là, au soleil, tranquille. Je suis assez contemplatif comme garçon, donc ça résume un peu. Un peu. D'ailleurs, si Xavier n'était pas venu me chercher, je n'aurais jamais composé ces morceaux. Je rentre dans une période de ma vie où je suis un peu en retrait, comme ça. Je suis plus tranquille. J'ai beaucoup donné avec R. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on n'est pas séparés, mais on continue les tournées. Mais bon, voilà.
Mais c'est quand même votre deuxième album.
Oui, j'ai remarqué que ces disques, ouais. Que ce soit Contrepoint ou que ce soit celui-ci, c'est plutôt.
C'est des projets personnels que vous avez.
C'est des projets personnels qui arrivent comme ça. J'ai pas d'agenda, j'ai pas de projet, j'ai pas de. Voilà, c'est un hasard, en fait.
Alors, on retrouve dans ce nouvel album La Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Vous l'évoquiez, l'église Sainte-Bernadette de Claude Parent, la résidence conçue par John Lautner en Californie, ou encore les constructions de Mies van der Rohe, qui avait conçu le pavillon de Barcelone en 1929. On écoute un premier titre, The Border. Comment il a été construit ce morceau? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, Michael Godin?
Alors pour moi, le pavillon de Barcelone avait une extrême pureté en lui, un dénuement grandiose, puisque on n'est jamais ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et c'était une architecture qui allait révolutionner les codes, la manière de concevoir l'habitat et les bâtiments. Et il y avait cette statue au fond du bassin qui s'appelait en allemand de Dein Morgen, enfin, le matin. Et moi, j'avais cette idée, voilà, on était à l'aube d'une nouvelle ère pour l'être humain, puisqu'on allait changer de. On construisait des bâtiments depuis 2000 ans sur un certain principe, même physique, et c'est l'invention des nouvelles structures métalliques et du béton allait transformer complètement la face du monde. Et donc, The Border, c'était l'histoire de Mies van der Rohe qui se retrouvait à la frontière franco-espagnole avec ses disciples pour changer la face du monde. Et ça, c'est une chanson, c'est venu comme ça. Et alors, comme le bâtiment est très pur, très minimaliste, je voulais une musique très pure et minimaliste, donc c'est effectivement cet extrait, c'est peut-être le morceau le plus alors les mauvaises langues peuvent dire vide, mais moi je les estime le plus minimaliste de l'album.
Alors on est entre le passage de frontière entre deux mondes et ce pont aussi qui peut être tissé. On peut pas faire plus opposé, a priori, que l'architecture et la musique, Nicolas Godin.
Non.
Le dur et le léger, le bâti et la mélodie, la matière et l'immatériel. Comment?
Non, au contraire.
Comment
moi,
ça se réunit? Comment?
Bah alors pour moi, ça a toujours été une évidence. Donc déjà, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir pour réunir les deux. Mais il y a cette notion d'espace qui est commun aux deux arts, cette notion d'artisan aussi, puisque moi, je fabrique mes sons. C'est de la matière première. Je prends, quand j'ai besoin de matériaux pour fabriquer une chanson, je prends des synthétiseurs analogiques et je sculpte les sons, je les malaxe, je les filtre, je fais ça depuis 30 30 ans maintenant. Donc, et puis ensuite, c'est vrai que moi, j'ai toujours appris que l'architecture était définie par l'espace entre deux murs. Et la musique, c'est exactement ça. C'est l'espace entre deux notes va créer un accord. Cet accord peut être triste, peut être gai, peut être anxiogène, peut être reposant, peut vous donner envie de bouger ou envie de dormir. Il y a un vrai pouvoir de manipulation avec, avec la musique. Et on est projeté, vous mettez le morceau et en deux secondes, vous êtes projeté dans un univers comme vous pouvez être projeté dès que vous rentrez dans une pièce d'un bâtiment, vous êtes projeté ailleurs. Et c'est ça que j'aime, c'est ce pouvoir de transporter les gens. Et je conçois la musique comme j'imagine un architecte peut concevoir l'architecture. D'ailleurs, on dit faire une maquette dans les deux cas.
Oui, c'est vrai, en musique comme en architecture.
Et voilà.
À une petite nuance près, il est évidemment d'accord avec vous, c'est le chef d'orchestre Pierre-André Valade qui dit, il avait organisé lui un concert hommage à Le Corbusier à Firminy il y a quelques années. Il dit les deux arts ont un sens de la forme, mais l'architecture habite l'espace et la musique habite le temps. Autrement dit, l'architecture est à l'espace ce que la musique est au temps. Vous l'entendez cette nuance-là aussi ou...
Non, moi je trouve que la musique habite l'espace puisqu'elle remplit tout l'espace. C'était quelque chose d'un... On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la contenir. Si je mets de la musique dans cette pièce, elle va aller dans tous les recoins, avec vos oreilles, elle va rentrer en vous, elle va s'infiltrer partout. C'est plus que de l'air, plus que de l'eau, plus que tout. C'est le matériau ultime, c'est ça qui est, c'est ce qui remplit toute la vie et tout l'espace, justement.
Et ça ne marche pas avec des voix
Avec la voix
Oui,
ah, si, bien sûr,
de la même manière.
Oui.
Il y a des voix qui vous habitent, vous
facilement. Moi, je pense que c'est beaucoup plus... si vous aimez beaucoup quelqu'un qui a disparu, je pense que vous serez beaucoup plus troublé d'entendre sa voix que de voir une photo de cette personne. Mmh. Donc, je pense que la voix, c'est le lien qui relie les hommes. Je pense que les aveugles sont beaucoup plus connectés au monde que les sourds, hein, je pense à cause de ça, parce que quand on est privé du son, on est vraiment privé du contact avec les autres.
Quelles sont les voix que vous aimez aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de collaborations aussi sur cet album. Hein.
J'aime toutes sortes de voix, j'aime toutes, que ce soit parce que sur mon album, il y a des chanteuses qui sont vraiment... je pense à Katia Bonnet, qui est pour moi la plus grande chanteuse aujourd'hui. Et puis il y a ma voix qui est traitée au vocodeur, donc tout est bien.
Pourquoi vous la traitez, votre voix, justement? Parce que vous ne l'aimez pas?
Non, c'est mon style. J'ai une révélation en 95 quand j'ai utilisé un vocodeur pour la première fois et j'ai trouvé ça magique. Et j'ai commencé à enregistrer avec et j'ai lancé ma carrière grâce à ça. Et ensuite, comme j'aime me renouveler, j'ai laissé tomber au bout de deux disques. Mais maintenant, après toutes ces années, je me sens légitime pour y revenir. Et sur mon album, j'ai utilisé le vocodeur sur quatre morceaux. Et j'ai retrouvé ma voix. Et d'abord, j'avais trouvé ma voix grâce au vocodeur. Et maintenant, je l'ai retrouvée. Et d'ailleurs, c'est très bien, c'est qu'avec le vocodeur, notre voix ne change pas.
C'est comme si vous aviez votre voix dans la vie et votre voix de scène. En quelque sorte.
Ouais.
Quatre morceaux, lesquels?
Alors, les premiers, Concrete and Glass, qui parle de John Notner. Il y a What Makes Me Think About You, Turn Right, Turn Left. Je crois que c'est pas ma voix, c'est le GPS de la voiture. et puis The Border, qu'on vient d'écouter.
Alors, Concrete and Glass, on y va, on y entre pour y entendre votre voix, puisque c'est le titre éponyme de ce nouvel album, Nicolas Godin. Vous l'avez trouvé, cette maison de verre et de béton, Nicolas Godin ?
Oui, bah, mais c'est vraiment littéral comme chanson, puisque j'avais rendez-vous avec Xavier à la maison de John Notner, en dessous de Mulholland Drive, à Beverly Hills. Et j'étais complètement paumé dans les ruelles, je ne trouvais pas ma route. Et tout d'un coup, j'ai eu cette mélodie et ces paroles, je cherche une maison, I'm looking for a house. Et puis finalement, je me suis arrêté, j'ai garé la voiture et j'ai terminé à pied. Et j'ai trouvé la maison en question. C'est une des plus belles maisons du monde et qui est faite effectivement de verre et de béton. Et c'est une maison qui est géniale parce qu'elle allie elle est extrême dans sa vision, elle est radicale, mais sans renier le confort de l'habitat. Et ça, c'est faire quelque chose d'avant-gardiste qui en même temps a une fonction qui remplit totalement sa fonction. C'est vraiment génial.
Et qu'est-ce qui était si avant-gardiste au moment de la conception de cette maison dans les années 60, qui a été depuis qualifié de manifeste futuriste? Mais c'était l'assemblage de ces matières?
Je sais pas. La vision d'un mec génial. Ça ne s'explique pas. On peut pas. C'est vrai que moi je sais pas si je suis analytique ou intuitif en fait parfois. Et là, mais j'ai senti que j'étais face à quelque chose d'énorme.
Et vous êtes plutôt vert ou vous êtes plutôt béton?
Bonne question. Je crois qu'avec l'âge, j'ai envie, oui, j'adore Tadao Ando. Je sais pas si vous avez touché du béton de Tadao Ando avec la main, mais il faut le faire pour le croire. C'est quelque chose d'extrêmement doux. Et j'aimerais bien aller dans le dénuement en grandissant et habiter dans une maison vide en béton et en verre. Ça me déplairait pas. Parce que Paris, on est très haussmannien. Et c'est vrai que je crois que je suis prêt à franchir le pas et d'abandonner les moulures et les cheminées et le parquet.
Mais il y a un retour du béton aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'architectes comme Paul Chemetov,
Petit,
parlent de cette manière et de tout ce qu'on peut faire aussi avec ou concevoir aujourd'hui. Moi, j'aurais dit que vous répondriez vert pour la transparence ou pour la légèreté que ça pouvait vous évoquer.
Oui.
Mais non.
Mais c'est vrai que pour le son, le vert n'est pas top. Moi, j'aime l'acoustique quand même, le vert, et c'est une matière dure.
France Culture, il est midi 20, presque, avec notre invité, le musicien Nicolas Godin.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Deuxième album solo après 20 ans passés en duo avec ce groupe R, Nicolas Godin, les années R en 7 morceaux, ça donne ça.
We'll be right back.
là, les fondations sont de vous, Nicolas Godin, et l'ordonnancement de Gilles Blanchard, notre réalisateur, pour cet édifice musical qui tient plutôt bien la route.
Ouais, c'est marrant, je n'avais pas écouté ce morceau depuis tellement longtemps.
Vous ne les réécoutez pas, mais est-ce que chaque strat, chaque morceau qu'on peut entendre là, évoque pour vous un lieu, un souvenir?
Des souvenirs, c'est une sensation. C'est fou, c'est fou. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la voix, c'est-à-dire que le son vraiment a cette capacité de capturer l'instant présent. C'est un peu comme du voodoo quand vous êtes en studio. Finalement, être en studio, et vous connaissez très bien ça à la radio, c'est mettre un groupe d'êtres humains dans une pièce et on attend de voir ce qui se passe et on capture ça avec un micro. Et il y a cette espèce de moment magique où tout est génial. Et après, les gens, quand ils achètent le disque, ils peuvent chez eux revivre cet instant. Donc, le son, c'est convoquer un moment de vie. Capturer, avoir un moment de vie. C'est ça la grande différence avec l'invention du disque par rapport aux grands musiciens qui ont été Bach, Mozart, Beethoven. C'est qu'ils donnaient un mode d'emploi de la musique sur du papier, une partition avec des notes. Mais la musique n'existait pas tant qu'elle n'était pas jouée dans un théâtre ou dans une salle de concert. Alors que le disque, on a changé de paradigme, on a enregistré un moment de vie, et ce moment de vie peut être à disposition de tout le monde. Il suffit d'écouter le disque, et voilà, c'est un peu comme ça qu'on a compensé la faiblesse de certaines compositions musicales contemporaines. On a rajouté de l'humain, on va dire.
Et on retrouve dans cet édifice les deux grands tubes, Sexy Boys et Playground Love. Et en ouverture, Modular Mix, votre premier single, sorti en 95, Acte de naissance de R, qui était déjà un hommage à Le Corbusier. Un morceau où vous imaginiez l'environnement musical d'une de ses maisons, d'un de ses habitats, le Modular, que l'architecte, lui, n'avait pas prévu. C'est une grande influence pour vous, votre marotte, comme vous l'appelez, Le Corbusier, avec notamment ce titre qu'on retrouve dans ce nouvel album, Cité radieuse. Comment on traduit ces lignes, comment on traduit ces formes en musique, c'est aussi ça le travail que vous avez mené. On va écouter Le Corbusier.
Moi, je fais mon architecture, elle est cohérente comme un organisme vivant, elle est biologique, si vous voulez un mot bien embêtant, n'est-ce pas? Elle est biologique, il y a un support osseux, il y a des forces musculaires, il y a des réseaux sanguins, lymphatiques, nerveux dedans. Et il y a tout ce qu'une biologie comporte d'impeccable, c'est dans mes maisons. Et je les mets, c'est pour ça que je suis un pauvre forçat du travail. Je suis pas malheureux de tout ça, parce que je travaille aujourd'hui plus fort que jamais, n'est-ce pas? Je fais des villes ou des maisons ou des baraques, peu importe. Et ça commence à la plus petite chose, et c'est l'addition de toutes les petites choses, les unes ou à côté des autres, modestement, avec persévérance, quotidiennement, qui permet de faire quelque chose au bout de la course.
Voilà, Nicolas Godin, vous pensez aussi votre musique comme une sorte d'organisme vivant, biologique?
Oui, mais moi je ne suis pas du tout un forçat du travail par contre. Je pense que l'homme travaille trop, et je suis un grand fan d'Éloge de la paresse, ce petit livre qui est assez génial, que je conseille à tout le monde de lire ça, parce que je ne sais pas si le salut de l'être humain est dans le travail. Vraiment. Et je trouve que, moi, j'admire Le Corbusier, c'est un génie, mais j'aime pas trop les gens qui font que bosser, en fait. Moi, je fais souvent aux États-Unis, je trouve que j'en travaille trop, par exemple.
Est-ce que le premier des boulots, c'est pas simplement de se nourrir, de laisser aussi toutes les influences qui sont importantes vous gagner? Là, dans cet album, on retrouve qui, principalement? Les influences musicales.
Moi, j'ai toujours partagé entre justement le travail intellectuel et l'intuition, et j'essaie de faire le vide quand je suis en studio pour effectivement me laisser envahir laisser de la place pour que mon instinct me guide mes pas. Et c'est un assez beau, c'est des beaux moments. Il faut vraiment. Le seul avantage que je trouve au travail, c'est on élimine de mauvaises idées en travaillant. Et comme ça, la bonne idée apparaît. La bonne idée est une clairière au milieu d'une forêt de mauvaises idées. Et le travail consiste à marcher à travers les arbres qui sont les mauvaises idées.
Pour cueillir la bonne idée.
Et on arrive à la clairière, on arrive à la lumière, et on trouve le Graal.
Bach était à la source de toutes les musiques, avez-vous dit, qui vous ont nourri. Il était le point de départ de chaque morceau de votre précédent album, le Contrepoint. Aujourd'hui, vous repartez donc de l'architecture pour bâtir cet album-là. On va écouter, avant de se quitter, les mots pour vous et aussi un peu pour nous, de votre producteur Pierre Rousseau du groupe Paradis.
Le rôle du producteur est d'aider l'artiste, par quelques moyens que ce soit, à terminer un disque. Et dans la mesure du possible, à susciter chez l'artiste une envie et une capacité à faire ce qu'il peut faire de mieux. Dans l'histoire, en tout cas de la pop musique, qui est le courant dans lequel on parle le plus souvent de producteur, ça peut soit être un accompagnement technique, suggérer manière d'enregistrer dans le but de parvenir à un idéal esthétique, par exemple. Après, concrètement, dans le cadre de ma collaboration avec Nicolas, il a déjà la force conceptuelle. Il n'y a pas de grand défi de ce point de vue-là pour un producteur, parce que c'est quelqu'un qui a une vision pour sa musique et la manière de l'expliquer. Et donc, très concrètement, dans notre collaboration, c'est beaucoup de conversations. Parler de musique en permanence, parler de références, parler de sonorités, parler de petits bouts de 2 secondes dans des morceaux qu'on adore et pourquoi. Et après, moi, dans mon cas, vraiment une présence technique. C'est-à-dire, je faisais, en gros, l'interface entre Nicolas et ses synthétiseurs.
Voilà, c'est pas facile de faire l'interface entre les deux. Les mots de Pierre Rousseau recueillis par Oriane Delacroix pour vous,
offre. C'est génial, c'est très émouvant d'entendre Pierre parler comme ça. Il est très humble aussi, parce qu'il a débloqué pas mal de situations en studio, notamment, c'est vrai que les synthétiseurs, c'était souvent lui qui créait des sons, parce qu'il a une science du synthétiseur qui est très impressionnante. Et puis voilà. Non, mais c'est pas ça, on parle de 10 solos, mais je crois pas que ça existe, les 10 solos. Les gens collaborent toujours avec un producteur ou avec un... On a toujours besoin d'un alter ego en musique. Je sais pas si ça existe, quelqu'un qui s'enfermait tout seul dans une pièce et qui ressortait avec un bel album.
On verra. Vous n'allez pas tenter l'expérience pour l'instant. Non, en tout cas, celui-là est plein de collaborations multiples, ça c'est sûr. Concrete and Glass est dans les bacs aujourd'hui sur le label Because. Merci beaucoup à vous.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci.